Ma vie d'enfant, chapitre 4. Je suis couché dans un large lit, enroulé tout entier dans la lourde couverture, et j'écoute grand-mère qui prie. Elle est à genoux, une main sur la poitrine, tandis que l'autre, lentement, dessine le signe de la croix. Il gèle dehors à pierre fendre. La clarté de la lune rayonne derrière les vitres fleuries par le froid d'arborescences bizarres. Et cette clarté, illuminant le bon visage au gros nez, allume comme un reflet phosphorescent dans les yeux de mon aïeul. Le fichu de soie qui couvre ses cheveux brille comme du métal forgé, et sa robe ondule largement autour d'elle. Ses dévotions terminées, grand-mère se déshabille en silence, plie avec soin ses vêtements, les pose sur un coffre dans un coin, puis se dirige vers le lit où je feins d'être plongée dans un profond sommeil. Ah, le petit coquin qui ne dort pas! S'écrie-t-elle à mi-voix. Tu ne dors pas, mon chéri? Donne-moi un peu de la couverture. Je me réjouis par avance de ce qui va se passer et ne puis retenir un sourire. Alors elle s'exclame. Ah, c'est ainsi que tu te moques de ta vieille grand-mère. Prenant la couverture par un bout, elle la tire à elle avec tant de force et d'adresse que je saute en l'air et tourne plusieurs fois sur moi-même avant de retomber sur le duvet moelleux. Grand-mère éclate de rire. Ah, farceur, tu fais la chasse aux mouches. Mais parfois, elle prie très longtemps et je dors réellement quand elle se met au lit. C'est toujours par d'interminables oraisons que s'achèvent les journées de querelles, de chagrins, de disputes. Je les écoute avec attention, car grand-mère raconte en détail au bon Dieu tout ce qui se passe dans la maison. « Tu le sais toi-même, mon Dieu, chacun recherche son propre avantage. Michael étant l'aîné, c'est lui qui devrait rester en ville. Il serait vexant pour lui d'aller s'établir au faubourg. » Dans un quartier inconnu où les affaires iront on ne sait comment. Le père, lui, préfère Jacob. Est-ce bien cela de ne pas aimer également ses enfants? Il est têtu, le vieux. Tu devrais bien lui faire entendre raison, ô mon Dieu. Elle fixe ses yeux rayonnants sur les saintes images et donne un conseil à l'Éternel. Inspire-lui un beau rêve, Seigneur. Qu'il partage équitablement son bien entre ses enfants. Elle se signe, se prosterne, son grand front vient heurter le plancher. Puis, se redressant, elle reprend d'un ton véhément. Ah, si Varioucha voyait le bonheur lui sourire de nouveau! Qu'a-t-elle fait pour t'irriter? En quoi est-elle plus coupable que les autres? Voilà une femme jeune, bien portante, et elle vit dans l'affliction. Aie aussi pitié de Grigory, mon Dieu. Sa vue baisse chaque jour davantage. S'il devenait aveugle, il faudrait qu'il mendie, et ce serait affreux. Il a usé ses forces à travailler chez nous, et qu'est-ce que grand-père fera pour lui? Ah, Seigneur, Seigneur! Longtemps, elle garde le silence, baissant la tête avec résignation. Et quoi encore? Se demande-t-elle tout haut en fronçant le sourcil. Et elle continue. Aie pitié de tous les orthodoxes. Sauve-les et pardonne à la maudite bête que je suis. Tu sais que si je pêche, ce n'est point par méchanceté, mais par sottise. Après avoir poussé un profond soupir, elle reprend d'une voix caressante et satisfaite. Tu sais tout, père. Tu connais tout. Le Dieu de grand-mère, qui lui était si proche, si familier, me plaisait beaucoup, et je demandais souvent à mon aïeul « Raconte-moi quelque chose sur Dieu. » Elle parlait de lui, les yeux mi-clos, traînant sur les mots, d'une voix très basse. En outre, quand elle entamait le sujet, elle s'asseyait sur le lit, jetait un fichu sur ses cheveux, et, jusqu'à ce que je fusse endormie, dévidait son histoire. Le Seigneur est assis sur une colline, au milieu des champs du paradis, sur un trône de saphir, sous des tilleuls d'argent. Ces tilleuls sont fleuris toute l'année, car il n'y a au paradis ni automne ni hiver, et les fleurs ne se fanent jamais. Autour du Seigneur, les anges volent et tourbillonnent comme des flocons de neige ou des essaims d'abeilles. On dirait des colombes blanches qui descendent du ciel sur la terre pour remonter encore, raconter à Dieu tout ce qui se passe dans ce monde. Chacun a son ange. Tu as le tien, j'ai le mien, et grand-père a le sien lui aussi, car tous les hommes sont égaux devant Dieu. Et ton ange raconte au bon Dieu. Alexis a tiré la langue à son grand-père. Alors Dieu commande, il faut que le grand-père le fouette. Et il en est de même pour tout le monde. Dieu donne à chacun selon ses mérites. Aux uns il accorde de la joie, aux autres il envoie du chagrin. Et tout est si bien arrangé que les anges, comblés d'allégresse, battent des ailes et chantent perpétuellement. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Le bon Dieu, lui, se contente de sourire, comme s'il leur disait « C'est bon, c'est bon. » Et grand-mère souriait aussi en secouant la tête. « Tu as vu tout cela ?»« Non, mais je le sais, » affirmait-elle d'un ton pensif. Quand elle parlait de Dieu, du paradis et des anges, elle devenait toute petite. Son visage rajeunissait, ses yeux humides rayonnaient. Je m'emparais de ces longues nattes satinées que j'enroulais autour de mon cou, et sans bouger, j'écoutais avec ravissement ces interminables histoires qui jamais ne m'ennuyaient. Il n'est pas donné aux hommes de voir Dieu. Ils seraient frappés de cécité. Les saints, eux, peuvent le contempler face à face. Par contre, les anges se montrent aux gens qui ont l'âme pure. J'étais à l'église, à la première messe, et j'en ai vu deux un certain jour. Ils étaient lumineux, lumineux et transparents comme des nuages. Leurs ailes touchaient terre. On eût dit qu'elles étaient en mousseline ou en dentelle. Ils tournaient autour de l'autel et venaient en aide au vieux père Illy, levant ses faibles bras, lui soutenant le coude. Peu après, ce digne homme est mort, car il était très âgé et aveugle. Le jour où j'ai aperçu les anges, j'en ai été toute saisie. J'étais si heureuse. Que c'était beau! Oui, Alexis, tout est bien, sur la terre et au ciel. Est-ce que vraiment tout est bien chez nous? Et grand-mère répondait en se signant, « Tout est bien, gloire à la Sainte Vierge !» Cette réponse me troublait. Il m'était difficile de reconnaître que chez nous tout allait bien. Il me semblait, au contraire, que la vie devenait de plus en plus pénible dans notre maison. Une fois, en passant devant la porte de la chambre habitée par l'oncle Michael, j'avais entrevu, tout en blanc, la tante Nathalie qui tournait dans la pièce sans s'arrêter. Les mains jointes sur la poitrine, elle s'exclamait sur un ton terrifiant et d'une voix continue « Seigneur, prends-moi, enlève-moi d'ici !» Je comprenais fort bien cette demande, de même que je comprenais Grigory lorsqu'il grommelait « Quand je serai aveugle, j'irai mendier et je serai plus heureux. » Je souhaitais qu'il perdît la vue au plus vite. J'aurais demandé la permission de lui servir de guide, et ensemble nous aurions parcouru le monde. Je lui en avais déjà parlé, et souriant dans sa barbe, il m'avait répondu « C'est entendu. Nous irons mendier tous les deux. J'annoncerai par toute la ville « Voilà Alexis Pekov, le petit-fils de Vassili Kachirine, président de la Corporation des Teinturiers. Voilà le fils de sa fille. » Et ce sera très drôle. À plusieurs reprises, j'avais vu sous les yeux vides de la tante Nathalie de grosses poches bleues, et souvent ses lèvres étaient boursouflées. Je demandais à grand-mère, « Est-ce que l'oncle lui donne des coups ?» Elle avoua avec un soupir, « Oui, il la bat en cachette, le grand vaurien. » Grand-père lui a interdit de la toucher, mais c'est la nuit qu'il la roue de coups, et elle ne sait pas se défendre. et s'animant peu à peu, elle racontait. « Tout de même, on est moins féroce que jadis sous ce rapport-là. Maintenant, on vous flanque un coup de poing sur la bouche, sur l'oreille, on vous tire les cheveux. Cela ne dure qu'un instant. Mais autrefois, c'était pendant des heures entières qu'on vous maltraitait. Le grand-père, une fois, le jour de Pâques, m'a battu de la messe jusqu'au soir. Quand il était fatigué, il se reposait et recommençait ensuite. Il m'a frappé avec des rênes, des cordes et tout ce qui lui est tombé sous la main. Qu'avais-tu fait ? Je ne me rappelle pas. À la suite d'une autre correction, je suis restée à moitié morte et pendant 5 jours et 5 nuits, il ne m'a rien donné à manger. Je ne sais pas comment j'ai pu en réchapper. Et une autre fois, j'étais si étonnée que j'en perdis la parole. Grand-mère était beaucoup plus grande et plus grosse que grand-père. Comment croire qu'il avait pu la terrasser ? Est-il donc plus fort que toi ? Non, mais il est plus âgé. Et puis, c'est lui qui est le mari. C'est lui qui doit répondre de moi devant Dieu. Mon devoir est de tout supporter. J'aimais beaucoup avoir mon aïeul époussetant les images saintes et nettoyant les garnitures de métal. Les images étaient somptueuses, ornées de perles et de plaques d'argent. Les couronnes des saints étincelaient, toutes incrustées de pierres chatoyantes. Grand-mère prenait une icône entre ses mains à droite, souriait et disait avec attendrissement « Quelle gentille figure !» Et elle baisait l'image en se signant. Il me semblait parfois que grand-mère jouait avec les icônes tout aussi sérieusement et sincèrement que ma cousine Catherine avec ses poupées. Très souvent, elle voyait le diable, seule ou en compagnie. Une fois, racontait-elle, pendant le carême, je passais de nuit devant la maison des Roudoff. La lune brillait. Tout à coup, à cheval sur le toit, je vis un grand diable, tout noir et velu, qui penchait sa tête cornue sur le tuyau de la cheminée et qui reniflait de toutes ses forces en remuant la queue. Je fis bien vite un signe de croix en disant « Que le Seigneur ressuscite et que ses ennemis se dispersent !» Alors, il a poussé un petit gémissement et a glissé, roulant du toit jusque dans la cour où il s'est anéanti. Les Roudolphe n'avaient probablement pas fait maigre ce jour-là. C'est pour cette raison que le diable reniflait et se réjouissait. Je riais en me représentant la culbute du démon. Grand-mère riait aussi et continuait. Comme les petits-enfants, ils sont très espiègles. Certains soirs, que je lavais du linge à la buanderie, voilà, sur le coup de minuit, que s'ouvre brusquement le portillon du fourneau et une quantité incroyable de diablotins en sortent. Tous étaient de très petite taille, et il y en avait qui étaient rouges, d'autres verts, d'autres encore noirs comme des blattes. Immédiatement, je veux me précipiter vers la porte, mais impossible d'y parvenir, j'étais entouré de démons. La chambre à lessive en était pleine, je ne pouvais plus me retourner. Ils se mettaient sous mes pieds, me tiraillaient, me houspillaient, si bien que je ne pouvais même plus souffler. Ils étaient velus, chauds, et leur pelage, au toucher, était doux comme la fourrure d'un chat. Seulement, tous marchaient sur leurs pattes de derrière. Ils s'amusaient, ils couraient, ils montraient leurs dents de souris, leurs petits yeux verts scintillaient de toutes petites cornes, à peine plus grosses que des bosses, se dressaient sur leur front. Et derrière eux pendaient de courtes queues tire-bouchonnées pareilles à celles des cochons de lait. Ah, mon Dieu, j'ai perdu la tête. Quand je suis revenue à moi, la chandelle était presque consumée, l'eau du chaudron toute froide et le linge blanchi jonchait le sol. Alors je ferme les yeux et de la gueule du fourneau, je vois s'écouler un torrent épais de créatures bigarrées et velues. Elles remplissent la buanderie exiguë, soufflent sur la chandelle et tirent leur langue rose d'un air malicieux. C'était à la fois amusant et un peu effrayant. Grand-mère hoche la tête, garde un instant le silence et soudain se ranime tout entière. « Je les ai vus à une autre occasion encore, les maudits. C'était en hiver, par une nuit d'orage. Je traversais le ravin de Djoukov et je passais à l'endroit où Jacob et Michael ont essayé de noyer ton père, vers la percée de l'étang. Tu te rappelles bien, je t'ai raconté l'histoire. Eh bien, à peine m'étais-je engagé dans le sentier qui descend au fond du ravin, que j'entendis des sifflements et des hurlements. Je lève les yeux, et que vois-je? Un attelage de 3 chevaux noirs, conduit par un énorme diable en bonnet rouge et raide comme un pieu, qui se précipite sur moi. Il se tenait hors du traîneau et tirait à bras tendus sur les rênes, qui étaient des chaînes de fer forgées. Il n'y avait point de route dans le ravin, et le traîneau, enveloppé d'un manteau de neige, allait tout droit à l'étang. Dans le traîneau se trouvaient également des diables qui criaient, sifflaient et agitaient leurs bonnets. Il passa ainsi 7 équipages, comme des chars de pompiers, et les chevaux étaient tous moraux, et c'étaient tous des êtres humains que leurs parents avaient maudits. Les démons se servent de ces gens-là comme de jouets, et les emploient comme montures pour se rendre la nuit à leur sabbat. C'était probablement à une noce de démons que j'avais assisté. Impossible de ne pas croire grand-mère. Elle parle avec tant de simplicité et de conviction. Mais où elle excellait, c'était quand elle récitait certains poèmes exposant l'histoire de la Vierge, qui, parcourant la terre pour se rendre compte des misères humaines, exhorta la princesse Angalitchef, chef d'une bande de brigands, à ne plus massacrer et dépouiller le peuple russe. Elle débitait aussi des légendes en vers sur Alexis le saint homme de Dieu, sur Ivan le guerrier. Elle connaissait également l'histoire de la sage Vassilissa, du prêtre Bouc et du filleul de Dieu, des récits terrifiants sur Martha la mairesse et sur Baba Ousta, une autre femme chef de pillard. Enfin, elle pouvait narrer encore les aventures de Marie la pécheresse égyptienne et quantité d'autres contes, récits et poésies populaires. Une chose pourtant m'étonnait plus que tout autre. Bien que ne craignant ni les gens, ni grand-père, ni les démons, ni les forces impures, grand-mère était bouleversée et terrifiée par les blattes noires dont elle devinait toujours la présence, même lointaine. Parfois, la nuit, elle me réveillait et chuchotait « Alexis, entends-tu, mon petit? Il y a une blatte. Écrase-la, pour l'amour de Dieu !» Tout endormi, j'allumai la chandelle et je rampais sur le plancher à la recherche de l'ennemi. Il me fallait parfois beaucoup de temps et je ne réussissais pas toujours. « Je n'en trouve point, » disais-je. Grand-mère, qui restait immobile, la tête cachée sous la couverture, suppliait d'une voix à peine perceptible. « Mais si, cherche-la, je t'en prie, il y en a une, j'en suis certaine. » Elle ne se trompait jamais, et je découvrais un insecte très loin du lit. « L'as-tu tué ? » ?»« Oui, Dieu merci, et merci à toi. » Et, rejetant la couverture, elle poussait un soupir de soulagement et souriait. Si je ne découvrais pas la bête, mon aïeul ne pouvait se rendormir. Je sentais son corps tressaillir au moindre bruit qui s'élevait dans le silence absolu de la nuit, et je l'entendais retenir son souffle et murmurer « Elle est près de la porte. Elle s'est glissée sous le coffre. Pourquoi as-tu peur des blattes ?» Grand-mère répondait gravement « Parce que je ne comprends pas à quoi elles peuvent servir. Elles sont noires et elles bougent, et voilà tout. Dieu a donné un rôle à chacune de ses créatures. Le cloporte montre que la maison est humide, la punaise que les murs sont sales, les poux signifient qu'on va tomber malade. Tout cela est naturel, mais les blattes, nul ne sait pourquoi elles viennent, ni ce qui les pousse, ni ce qui les fait vivre. » Une nuit, comme grand-mère, agenouillée, conversait à cœur ouvert avec Dieu, grand-père entra en coup de vent dans la pièce et annonça d'une voix bouleversée Le Seigneur nous éprouve, mère. La maison brûle.
Que dis-tu là ?
S'exclama-t-elle en se levant brusquement. Et tous deux se précipitèrent en piétinant avec lourdeur dans les ténèbres de la grande pièce de réception.
« Eugénie, descends les saintes images. Nathalie, habille les enfants !»
commanda grand-mère d'une voix ferme et sonore, tandis que son mari larmoyait tout bas. Je courus à la cuisine. La fenêtre qui donnait sur la cour étincelait comme de l'or. Sur le plancher, des taches jaunes coulaient et dansaient. L'oncle Jacob, tout en s'habillant, sautait sur ses taches qui semblaient brûler ses pieds nus, et il criait
« C'est Michaël qui a mis le feu ! Il a mis le feu et il s'est sauvé !»«
Silence vaut rien !»
ordonna grand-mère en le poussant vers la porte avec une telle violence qu'il faillit tomber. À travers les vitres couvertes de givre, on voyait flamber le toit de l'atelier, et par la porte ouverte de la pantie, on apercevait le feu ondoyant qui tourbillonnait à l'intérieur. Dans la nuit paisible, ses fleurs rouges s'épanouissaient sans dégager de fumée. Très haut, seulement au-dessus d'elle, vacillait un nuage blanchâtre qui néanmoins laissait transparaître le torrent argenté de la Voie lactée. La neige scintillait avec des reflets pourprés. Les murs des bâtisses tremblaient, chancelaient, comme pour se diriger vers le coin de la cour où le feu jouait gaiement, enluminant de rouge les larges fissures qui s'ouvraient dans les cloisons de l'atelier. Sur les planches sèches et noires du toit, des rubans d'or et de pourpre s'enroulaient et se tordaient. Isolés au milieu de leurs volutes, une mince cheminée d'argile se dressait, criarde. De légers craquements, comme des froufrous de soie, venaient battre les vitres. Le feu s'étendait toujours. L'atelier, qu'il dévorait complètement, me semblait pareil à l'iconostase de l'église et m'attirait sans que je pusse résister à son appel. Jetant sur mes épaules une lourde pelisse, j'enfilai des bottes appartenant à je ne sais qui, puis je me traînai du corridor jusqu'au perron où je restais stupéfait. La clarté du feu m'aveuglait. J'étais assourdi par les craquements et par les cris de grand-père, de Grigory et des oncles, effrayé de la conduite de grand-mère. Coiffée d'un sac vide, enveloppée dans une housse, la bonne aïeule courait vers l'atelier en flammes et y pénétrait en clamant.
« L'acide, imbécile ! L'acide qui va faire explosion !»«
Grigory ! » pleurnichait grand-père. « Retiens-la, sinon elle est perdue !»
Mais grand-mère revenait déjà, toute fumante. Elle hochait la tête, courbait le dos et portait à bras tendus une énorme bonbonne pleine d'acide.
« Père, fais sortir les chevaux »
ordonna-t-elle en toussant et en râlant.
« Enlevez-moi cette housse, vous ne voyez donc pas qu'elle flambe !»
Grigory lui arracha des épaules la housse qui brûlait en effet. Et, se courbant en deux, il se mit à lancer à l'intérieur de l'atelier de grandes pelletées de neige. L'oncle sautillait autour de lui, une hache à la main. Grand-père jetait de la neige sur sa femme, qui, après avoir mis la bonbonne en sûreté, se précipita sur le portail. Elle l'ouvrit, et saluant les gens qui accouraient de toutes parts, elle leur dit
« C'est le hangar qu'il faut protéger, voisin. Si le feu atteint le hangar et le fenil, tous nos bâtiments grilleront, et ceux du voisinage aussi. Abattez le toit et jetez le foin dans le jardin. Grigory, lance plus haut. Inutile d'entasser la neige par terre.
Jacob, ne perds pas de temps. Donne des haches et des pelles à tout le monde.
Voisin, venez à notre aide. Que Dieu soit avec nous. »
Grand-mère était aussi intéressante que l'incendie. Toute noire et éclairée par la flamme qui semblait la pourchasser, elle allait et venait dans la cour. Elle était partout, elle voyait tout, elle dirigeait tout. Charappe, le cheval, survint au galop. Il se redressa sur ses pieds de derrière, et le feu donna dans ses grands yeux qui lancèrent un éclair rouge. Alors l'animal, reposant les sabots à terre, se mit à hennir, et grand-père, affolé, lâchant la bride, fit un bond de côté et cria «
Mère, retiens-le !»
Elle se jeta sous les pieds de la bête cabrée et se plaça les bras en croix devant elle. Charap poussa un gémissement plaintif, étendit le cou en louchant vers la flamme.
« N'aie donc pas peur !» proféra grand-mère d'une voix mâle.
Et tout en lui tapotant le cou, elle saisit la bride et continua.
« Crois-tu que je te laisserai ici ?
Ah, gros nigo ! Petite souris !» Et la petite souris, trois fois plus grosse qu'elle, la suivit docilement jusqu'au portail. Eugénie sortit de la maison avec les enfants en mitouflés et glapissant.
« Je n'ai pas trouvé Alexis !» déclara-t-elle.
« Va-t'en, va-t'en !» répondit grand-père en agitant la main. Je me cachai sous les marches du perron afin de n'être pas emmené par la bonne. Déjà, le toit de l'atelier s'effondrait et les minces chevrons se dressaient vers le ciel. À l'intérieur de la bâtisse, des tourbillons verts, bleus, rouges fusaient avec des crépitements. Les flammes en gerbe tombaient dans la cour, sur les gens assemblés devant l'immense foyer qu'ils essayaient d'étouffer sous des pelletées de neige. Les marmites bouillonnaient avec furie. La fumée et la vapeur s'élevaient en nuages épais. Des odeurs bizarres se répandaient et picotaient les yeux. Je sortis de mon refuge et roulai dans les jambes de ma grand-mère.
« Ôte-toi de là » m'ordonna-t-elle. « Ôte-toi de là ou tu seras écrasé. »
Un cavalier en casque de cuivre orné d'une crinière se présenta sur le seuil. Son cheval était couvert d'écume et l'homme hurla en levant très haut son bras armé d'un petit fouet.
« Laissez passer !»
Des clochettes résonnèrent. Tout était beau et amusant comme un jour de fête. Grand-mère me poussa sur le perron.
« N'as-tu pas compris ce que je t'ai dit ? Va-t'en !»
Impossible de désobéir. Je me rendis à la cuisine, où je me collai le nez à la fenêtre. Mais je n'apercevais plus le feu que des groupes noirs assemblés me cachaient. Seuls les casques de cuivre étincelaient parmi les têtes coiffées de casquettes de drap ou de bonnets de fourrure. On étouffa rapidement l'incendie, en inondant les foyers qu'on piétina ensuite. Puis la police dispersa la foule et grand-mère revint à la cuisine.
« Qui est là ? Ah, c'est toi ! Tu ne dors pas ? Tu as peur ? Ne crains rien, tout est fini. »
S'asseyant à côté de moi, elle garda le silence. J'étais content que la nuit paisible et l'obscurité fussent revenues, et pourtant je regrettais le feu. Grand-père, qui entrait, s'arrêta sur le seuil et appela.
« Mère !»«
Quoi ?
T'es-tu brûlée ?
Ce n'est pas grave. »
Il frotta une allumette qui éclaira son vieux visage de putois tout maculé de suie, puis, sans se hâter, il s'assit à côté de sa femme.
« Tu devrais te débarbouiller, » conseilla-t-elle.
Elle-même était couverte de suie et une odeur âcre émanait de sa robe. Grand-père soupira.
« Le Seigneur est miséricordieux. Quelle intelligence il t'a donnée !»
Et après lui avoir caressé l'épaule, il reprit. « Par moments, veux-je dire, pendant une heure ou deux. Mais enfin, oui, tu as parfois de la raison. » Grand-mère sourit à son tour. Elle allait répliquer lorsqu'il continua, le front rembruni.
« Il faut renvoyer Grigory. » C'est par sa négligence que le feu a éclaté. Il est à bout de force, cet homme. Il est vidé. Jacob larmoie sur le perron, comme un ego. Si tu allais voir. »
Elle se leva et sortit en soufflant sur ses doigts. Sans me regarder, grand-père, à mi-voix, m'interrogea.
« Tu as vu l'incendie depuis le commencement ? Eh bien, que dis-tu de grand-mère ? C'est pourtant une vieille femme. Elle, cassée ? « Usé, allons donc !»
Il courba le dos, garda longtemps le silence, puis se leva, moucha la chandelle avec ses doigts et, s'adressant de nouveau à moi,
« As-tu eu peur ?»«
Non. »
« Il n'y avait en effet pas de quoi. »
Arrachant brusquement sa blouse, il se dirigea vers un coin où se trouvait un lavabo et là, dans l'ombre, tapant du pied, il déclara à haute voix «
L'incendie,
c'est une sottise. Celui dont la maison brûle devrait être fouetté en public, car c'est un imbécile ou un voleur. Si l'on agissait de la sorte, il n'y aurait plus d'incendie. Va-t'en te coucher. Que fais-tu là ?
J'obéis, mais je ne pus dormir. À peine m'étais-je mis au lit qu'un hurlement qui n'avait rien d'humain m'en fit sortir en sursaut. Je me précipitai de rechef à la cuisine. Grand-père, le torse nu, une chandelle à la main, se tenait au milieu de la pièce. Sa chandelle tremblait, et lui, traînant les pieds sur le plancher, râlait sans pouvoir avancer.
« Mère ! Jacob ! Qu'est-ce qui se passe ?»
Je bondis sur le poêle où je me pelotonnais, et l'agitation régna de nouveau dans la maison. Comme pendant l'incendie, une plainte douloureuse et cadencée retentissait et reprenait avec une force croissante. Grand-père et l'oncle allaient et venaient, l'air effaré. Grand-mère grondait et les expédiait je ne sais où. Grégory, entassant des bûches dans le fourneau, remplissant d'eau les marmites, faisait un vacarme incroyable, tout en dodelinant de la tête comme un chameau d'Astrakhan.
« Mais allume donc !» commanda grand-mère.
Il se hâta de prendre un tison, et, rencontrant mon pied, il poussa un cri d'alarme.
« Qui est là ? Ah, que j'ai eu peur ! Tu es partout où l'on n'a pas besoin de toi. »« Qu'est-ce qu'il y a ?
C'est la tante Nathalie qui accouche, » répondit-il avec indifférence.
Je me rappelais alors que ma mère n'avait pas crié ainsi quand elle avait accouché. Les marmites placées sur le feu, Grégory grimpa sur le poêle à côté de moi, et, tirant de sa poche une pipe de terre, il me la montra.
Je me suis mis à fumer à cause de mes yeux. La grand-mère me conseille de priser, mais moi, je crois qu'il vaut mieux que je fume.
Il s'assit tout au bord du poêle, les jambes pendantes, et il baissait les yeux pour regarder la faible clarté de la chandelle. Son oreille et sa joue étaient maculées de suie. Sa blouse, déchirée sur le côté, laissait voir ses côtes larges comme des cercles de tonneaux. L'un des verres de ses lunettes s'était brisé, et la moitié du verre étant sorti de la monture, l'œil, rouge et humide, tel une plaie, apparaissait dans l'ouverture. Grégory bourra sa pipe de tabac en feuilles, et tout en prêtant l'oreille au gémissement de la femme en travail, il marmottait des phrases incohérentes.
« Tout de même, elle s'est brûlée, la grand-mère. Comment fera-t-elle pour délivrer la tante ? Comme elle geint !
On l'avait oubliée, et il paraît qu'elle a ressenti les premières douleurs quand l'incendie commençait.
Elle a eu peur. Que c'est pénible de mettre un enfant au monde. Et pourtant, on ne respecte pas les femmes.
Rappelle-toi cela. Il faut respecter les femmes, c'est-à-dire celles qui sont mères. » Je sommeillais. Un bruit de pas, de porte qui claquait, les grognements furieux de l'oncle Michael me réveillèrent. Des paroles bizarres arrivèrent à mes oreilles.
« Il faut ouvrir la porte sacrée.
Donnez-lui de l'huile de la lampe éternelle avec du rhum et de la suie, un demi-verre de rhum, un demi-verre d'huile et une cuillerée à soupe de suie. »
L'oncle Michael suppliait obstinément. « Laissez-moi voir !»
Il était assis par terre, les jambes écartées, les mains traînant sur le plancher. La chaleur devenait insupportable. Je descendis du poêle. Mais lorsque j'arrivai à sa hauteur, il me tira par la jambe et je tombai sur la nuque.
« Imbécile ! »
m'écriai-je. Instantanément, il sauta sur ses pieds, me saisit de nouveau et se mit à rugir en me secouant.
« Je vais te casser la tête contre le poêle !»
Quand je revins à moi, j'étais au salon, dans le coin des images saintes, sur les genoux de grand-père. Les yeux levés au plafond, il me berçait et murmurait.
« Nous n'avons point d'excuses, ni les uns, ni les autres. »
Au-dessus de sa tête, la lampe éternelle brillait. Sur la table, au milieu de la pièce, une chandelle était allumée. Le matin trouble d'automne apparaissait déjà derrière la fenêtre. Grand-père demanda en se penchant vers moi. « Où as-tu mal ?» J'avais mal partout. Ma tête était mouillée, mon corps pesant, mais je ne voulais rien dire. Tout me semblait si bizarre. Les chaises étaient presque toutes occupées par des gens inconnus. Le prêtre, en robe violette, était là, avec un petit vieux à cheveux blancs et portant lunettes, vêtu d'un uniforme, et beaucoup d'autres encore. Tous restaient immobiles, comme des statues de bois. Ils attendaient et écoutaient l'eau qui clapotait tout près de nous. Appuyé au montant de la porte, l'oncle Jacob, debout, cachait ses mains dans ses poches. Grand-père l'appela. « Conduis ce gamin à son lit !» L'oncle me fit signe du doigt et s'en alla sur la pointe du pied jusqu'à la porte de la chambre de grand-père. Lorsque j'eus grimpé sur le lit, il chuchota « La tante Nathalie est morte !» Je n'en fus pas surpris. Depuis longtemps, elle menait dans la maison une vie tellement à part, ne paraissant plus à la cuisine, ni à table. « Où est grand-mère »« Là-bas, » répondit l'oncle, avec un petit geste vague, et il sortit toujours sur la pointe des pieds. Je demeurai couché à regarder tout ce qui m'entourait. Aux vitres s'était collé je ne sais quel visage velu, gris et aveugle. Dans un coin, au-dessus d'une malle, à l'endroit où grand-mère suspendait ses robes, il me semblait que quelqu'un guettait. Le visage enfoui dans l'oreiller, je louchai d'un œil vers la porte. J'avais grande envie de repousser mon édredon et de fuir. Il faisait chaud. Une odeur épaisse et suffocante emplissait l'appartement, et je me remémorais le jour où Tsiganok était mort. Des filets de sang coulèrent sur le sol. Quelque chose se gonfla dans ma tête ou dans mon cœur. Tout ce que j'avais vu dans cette maison défilait sous mon crâne, comme un cortège de chars dans la rue, en hiver. Et j'étais terriblement oppressée. La porte très lentement s'ouvrit. Grand-mère pénétra dans la chambre et referma la porte contre laquelle elle s'appuya. Puis, tendant les mains vers la flamme bleue de la lampe éternelle, elle se mit à gémir tout bas comme une enfant. « J'ai mal aux doigts, j'ai mal aux doigts. »
Chapitre 5. Encore quelque chose surgit dans mon souvenir, ainsi qu'un cauchemar. Un soir, après le thé, comme je lisais avec grand-père et que grand-mère lavait la vaisselle, l'oncle Jacob, débraillé comme toujours, entra en coup de vent dans la pièce. Sans saluer, il lança sa casquette dans un coin. Puis, tout gesticulant et agité, il parla avec précipitation. « Père, Michael fait le fou. Il a dîné chez moi, a bu et s'est mis à tout chambarder. Il a brisé les assiettes et les verres, déchiré une robe de laine qui appartient à un client. Il a cassé les vitres, il m'a injurié et a insulté Grigory. Et maintenant, le voici qui arrive en vociférant. Je vais chez le père pour lui arracher la barbe. Je veux le tuer. Prenez garde. »
Grand-père se leva lentement. Son visage ridé sembla se contracter, s'effiler, et devint étroit et menaçant comme une hache. « Entends-tu, mère ? » glapit-il. « Et que penses-tu de cela ? Notre propre fils veut tuer son père ?» Il allait et venait par la cuisine, redressait les épaules. Puis, se dirigeant vers la porte, il poussa brusquement le verrou massif et cria à Jacob « « Ainsi, c'est toujours la dot de Varioucha que vous voudriez rafler. Eh bien, voilà pour vous !» Et il lui fit la nique. L'oncle recula et d'un ton vexé protesta. « Père, je ne suis pour rien dans l'affaire.
« Toi, je te connais. »
Grand-mère gardait un silence obstiné et rangeait en hâte les tasses dans l'armoire.
moi qui suis venu pour vous défendre !» continuait Jacob.
« Vraiment ?» ricana grand-père.
« C'est très bien, et je te remercie, mon garçon.
Mère, donne donc quelque chose à ce renard, un fer à repasser ou un tisonnier.
Et toi, mon petit Jacob, quand ton frère entrera, tu le frapperas sur la tête. »
Grand-père plongea les mains dans ses poches et s'en alla dans un coin.
« Si vous ne me croyez pas !» balbutiait mon oncle.
« Te croire ?»
interrompit grand-père en frappant du pied.
« Non, je croirais plutôt n'importe quel animal, un chien, un hérisson.
Mais toi, jamais !»«
Comme si je ne savais pas que c'est toi qui as fait boire ton frère et qui l'a poussé.
Et maintenant, frappe, frappe qui tu voudras, lui ou moi. »
Grand-mère me chuchota. « Monte vite, regarde par la fenêtre, et quand tu verras l'oncle Michael, viens nous prévenir tout de suite. Va, va !»
Un peu effrayée à l'idée de l'irruption imminente de la brute surexcitée, et fière en même temps de la mission dont on m'a chargée, je me penche à la fenêtre et j'examine la rue. Elle est large, couverte d'une couche épaisse de poussière dans laquelle les gros cailloux font des bosses. À gauche, très loin, après avoir franchi le ravin, elle aboutit à la place de la maison de force, où s'érige la vieille prison, édifice grisâtre flanqué d'une tour à chacun de ses quatre angles. Elle a quelque chose de mélancolique et de beau. À droite, trois maisons seulement nous séparent de la vaste place au foin, barrée par la caserne des bataillons disciplinaires et le beffroi couleur de plomb du bâtiment des pompiers. Autour de la guérite, percée d'ouvertures, le veilleur tourne comme un chien attaché à sa chaîne. Plus loin, je distingue l'étang croupissant de Dioukov, dans lequel, ainsi que me le raconta grand-mère, mes oncles naguère firent un trou dans la glace pour y jeter mon père. Presque en face de la fenêtre s'ouvre une ruelle bordée de petites maisonnettes bariolées. Elle s'appuie à l'église des Trois Évêques, qui est large et basse. Quand on regarde droit devant soi, on aperçoit les toits qui ressemblent à des barques renversées flottant sur les vagues vertes des jardins. Les maisons de notre rue, effritées par les tempêtes des longs hivers et délavées par les interminables pluies d'automne, sont poudrées de poussière. Serrées les unes contre les autres, comme les mendiants sur le parvis de l'église, elles aussi, elles semblent attendre quelqu'un. Les rares passants vont sans se presser, pareils à des blattes somnolentes, dans l'ombre tiède du poêle. Une chaleur accablante s'élève jusqu'à moi, et je sens l'odeur insinuante et fade des pâtés à l'oignon vert et à la carotte, que je n'aime pas, et qui me rend toujours mélancolique. Je m'ennuie. Je m'ennuie terriblement. J'étouffe aussi. Quelque chose comme une coulée de plomb liquide et chaud emplit ma poitrine et comprime mes côtes. Dans cette petite pièce dont le plafond, pareil à un couvercle de cercueil, pèse sur ma tête. Voici l'oncle Michael. Il apparaît au coin de la maison grise qui fait l'angle de la ruelle. La casquette si enfoncée sur la nuque que ses oreilles en sont écarquillées. Il est chaussé de bottes poussiéreuses qui lui montent jusqu'aux genoux et vêtu d'un veston roussâtre. Une de ses mains plonge dans la poche de son pantalon à carreaux, l'autre tiraille fiévreusement sa barbe. Je ne distingue pas son visage, mais à son attitude, je devine qu'il va bondir et s'agripper de ses mains noires et velues à la porte de notre maison. Il faudrait descendre au plus vite, prévenir les autres. Mais je ne puis me détacher de la fenêtre. Je vois l'oncle qui traverse la chaussée avec précaution, comme un chat craignant de se salir les pattes, et je l'entends qui ouvre la porte du cabaret. À toutes jambes, je descends pour rendre compte de ce que j'ai vu.
« Qui est là ?» demande grand-père d'une voix brutale.
« C'est toi ? Il est entré au cabaret ? C'est bien, va-t'en, retourne là-haut.
« J'ai peur.
Ça ne fait rien. » De nouveau, je me penche à la fenêtre.
Le jour est à son déclin. La rue est devenue plus profonde, plus noire. Aux fenêtres des maisons, des feux jaunes apparaissent et s'étendent comme des taches graisseuses. En face, on fait de la musique. Les cordes chantent avec une harmonieuse tristesse. Au cabaret, on chante aussi. Et quand la porte s'ouvre, une voix, lasse et brisée, arrive jusqu'à mes oreilles. Je sais que c'est celle de Nikitushka, un vieux mendiant borgne et barbu qui a un charbon ardent en guise d'œil droit et dont l'œil gauche est complètement fermé. La porte claque et la chanson se tait, tranchée comme par un coup de hache. Grand-mère envie Nikitushka.
« Il a bien de la chance, » soupire-t-elle.
« Il sait de beaux poèmes. » Une lassitude invincible et qui vous serre le cœur émane de cette rue somnolente. Je voudrais tant entendre monter grand-mère ou même grand-père. Quelle espèce d'homme était-ce donc que mon père? Pourquoi ni mes oncles ni mon aïeul ne l'ont-ils aimé, alors que grand-mère, Grigory et Eugénie ne tarissent pas d'éloges sur son compte? Où est ma mère? Je pense à elle de plus en plus. Je la place au centre de toutes les histoires et des légendes que me raconte mon aïeul. Le fait que ma mère ne veut pas vivre dans sa famille l'élève encore à mes yeux. Je m'imagine qu'elle habite quelque part au loin, dans une hôtellerie sur la grande route, chez des bandits qui pillent les riches voyageurs pour partager ensuite leur butin avec les pauvres. Peut-être a-t-elle trouvé asile dans une caverne de la forêt, chez de bons brigands, naturellement pour qui elle fait la cuisine et dont elle garde les trésors. Peut-être aussi, comme la princesse en Galitchef, en compagnie de la Sainte Vierge, parcourt-elle le monde pour en voir les splendeurs et les misères? Je me remémore ces légendes et je rêve. Des piétinements, des hurlements venus du corridor et de la cour me réveillent en sursaut. Penché à la fenêtre, j'aperçois grand-père, l'oncle Jacob, Émilian, un tchérémis, cocasse, employé du cabaretier, en train d'expulser l'oncle Michael qui résiste de toutes ses forces. Les coups, de tous côtés, pleuvent sur ses bras, sur son dos et sur sa nuque, et il est enfin projeté, la tête la première, dans la poussière de la rue. La porte basse claque, le loquet et le verrou cliquettent, la casquette fripée vient tomber à côté de l'ivrogne, et tout redevient silencieux. Un instant, l'oncle reste ainsi sans mouvement, puis il se met sur son séant, ramasse une pierre et la lance contre le portail, qu'elle heurte avec un bruit sonore. Des gens vagues sortent du cabaret, bâillent, reniflent, gesticulent. Des têtes apparaissent aux fenêtres des maisons voisines, la rue s'anime, crie et rit. Et tout cela aussi est pareil à un rêve, à un cauchemar. Soudain, tout s'efface, tout se tait, tout disparaît. Je revois grand-mère assise sur un coffre, le dos courbé, immobile et sans souffle. Debout devant elle, je caresse ses joues tièdes, douces et mouillées, mais elle ne s'aperçoit de rien, et d'un air morne murmure « Seigneur, n'avais-tu donc pas assez de bon sens pour m'en donner à moi et à mes enfants? Seigneur, aie pitié de nous !» Il me semble que grand-père n'a pas habité plus d'une année la rue des Champs. Pourtant, dans ce court laps de temps, la maison acquit aux alentours bruyante et mauvaise renommée. Presque tous les dimanches, les gamins rassemblés devant notre portail s'exclamaient gaiement « Voilà qu'on se bat encore chez les Cachirines !» Vers le soir, généralement, l'oncle Michael arrivait et, la nuit entière, assiégeait la maison, dont les habitants étaient en émoi. Parfois, il se faisait accompagner par deux ou trois acolytes, la crème du faubourg Kounavine. Par le ravin, les sauvages pénétraient dans le jardin, où ils se livraient aux fantaisies les plus échevelées que l'ivresse leur dictait, saccageant les plates-bandes, arrachant les framboisiers et les groseilliers. Certains soirs même, ils démolirent la buanderie, qui servait aussi de salle de bain, brisant tout ce qui s'y trouvait, planchers, bancs, marmites, portes et cadres de fenêtres. Sombre et muet, grand-père demeurait à la croisée, prêtant l'oreille, tandis que grand-mère, invisible dans l'obscurité, courait par la cour et criait d'une voix suppliante « Michael, que fais-tu, Michael ?» En réponse, arrivait du jardin un juron idiot et obscène. J'étais alors extrêmement malheureux, car il m'était impossible de rester à côté de grand-mère, et loin d'elle, la peur m'étreignait. Mais si je m'avisais de descendre dans la chambre de grand-père, il grognait aussitôt en m'apercevant « Hors d'ici, vaurien !» Je me réfugiais au grenier, cherchant par la lucarne à me rendre compte de ce qui se passait dans les ténèbres du jardin. Certaines nuits, n'apercevant plus l'aïeul et craignant qu'on ne la tuât, j'appelais de toutes mes forces. Mon oncle, ivre comme de coutume, entendit ma voix et se répandit en invectives furieuses et malpropres contre ma mère. Un soir, qu'une de ces scènes se déroulait, grand-père, malade et alité, agitait sur l'oreiller sa tête enveloppée d'un linge et glapissait d'une voix géniarde. « Dire que c'est pour en arriver là que nous avons vécu, péché et amassé du bien. Si ce n'était pas scandaleux, je ferais venir la police et j'irai demain chez le gouverneur. Quelle infamie! Les parents ne pourraient pas faire arrêter leurs enfants? Ce serait honteux. Alors, il faudrait tout supporter. Allons donc !» Soudain, il mit les pieds hors du lit et d'un pas chancelant se dirigea vers la fenêtre. Grand-mère le retint par le bras. « Où vas-tu? Où vas-tu? » « Allume la chandelle » ordonna-t-il en haletant. Lorsque l'aïeul eut obéi, grand-père, saisissant le chandelier et le tenant devant lui, comme un soldat son fusil, se mit à crier d'une voix ironique. « Eh, Michael, voleur nocturne, chien enragé, galeux !» Un carreau du haut de la fenêtre vola aussitôt en mille éclats et un fragment de brique tomba sur la table près de grand-mère. « Coup manqué !» hurla grand-père, et il eut un rire qui ressemblait à un sanglot. Grand-mère le prit dans ses bras, comme un enfant, et elle le porta sur le lit, en murmurant avec effroi « Que fais-tu? Que fais-tu? Que Dieu soit avec toi! Ne le tente pas! Est-ce que, dans sa rage, il comprend ce qu'il fait, et que c'est la Sibérie qui l'attend ?» Les jambes vacillantes, grand-père râla. « Qu'importe qu'il me tue !» Au dehors, on meuglait, on piétinait, on égratignait le mur. Je pris la brique qui était sur la table et je courus à la fenêtre. Grand-mère parvint à m'arrêter, et me repoussant dans un coin, elle siffla entre ses dents « Ah, maudit !» Une autre fois, l'oncle Michael, armé d'un gros pieu, tenta de pénétrer dans le corridor. Debout sur les marches du perron accédant à la cuisine, il essayait d'enfoncer la porte. Grand-père, armé d'un bâton, deux locataires avec une massue et la femme du cabaretier le suivaient, tandis que grand-mère, piétinant sur place, suppliait. « Laissez-moi aller vers lui! Laissez-moi lui parler, lui dire un mot !» Grand-père la repoussait, et ces quatre personnes, prêtes à tout, qu'éclairait d'en haut une lanterne tremblotante, composaient un groupe étrange. De l'échelle du grenier, je regardais ce spectacle, et j'aurais voulu décider grand-mère à venir me rejoindre. L'oncle s'acharnait avec succès sur la porte branlante et prête à sauter. Le dernier gond tenait à peine, le premier avait déjà cédé, et elle grinçait avec un bruit désagréable. « Tapez-lui sur les bras et les jambes, s'il vous plaît, mais pas sur la caboche !» recommanda d'une voix altérée grand-père à ceux qui lui prêtaient main-forte. À côté de la porte s'ouvrait un petit guichet au travers duquel on pouvait passer la tête. L'oncle en avait déjà brisé la vitre, et le cadre, tout hérissé d'éclats, devenait noir comme un œil crevé. Grand-mère passa la main par l'ouverture, et elle cria en gesticulant.
« Michael, pour l'amour de Dieu, va-t'en ! Sinon tu seras massacré ! Va-t'en !»
Pour toute réponse, il la frappa. On vit quelque chose de large glisser devant le guichet et tomber sur les doigts de grand-mère, qui s'affaissa, et tomba à la renverse en criant encore
« Sauve-toi, Michael !»«
Femme !» rugit grand-père d'une voix terrible. La porte s'ouvrit toute grande. L'oncle bondit dans l'ouverture béante et aussitôt fut lancé à bas du perron comme une pelletée de boue. La cabaretière emmena mon aïeul dans la chambre de grand-père. Bientôt il suivit les deux femmes et s'approcha d'elles d'un air sombre. « L'os n'est pas cassé ?»«
Je crois que si, » répondit grand-mère sans ouvrir les yeux. « Qu'avez-vous fait de lui ?»«
Voyons, pas de sottises !» s'exclama-t-il sévèrement. « Suis-je un fauve ? On l'a ligoté, et il est sous le hangar. Je l'ai aspergé d'eau. Mais Dieu, qu'il est méchant ! Comment avons-nous pu donner le jour à une pareille engeance ?»
Grand-mère se mit à gémir.
« J'ai fait chercher la rabouteuse. Prends patience !» exhorta grand-père en s'asseyant à côté d'elle sur le lit. « Ils nous feront mourir. Ils nous feront mourir avant l'heure. »
« Donne-leur tout !»«
Mais Varioucha !» Longtemps ils parlèrent, elle tout bas et suppliante, lui d'une voix criarde et irritée. Enfin arriva une petite, vieille, bossue, dont l'immense bouche allait jusqu'aux oreilles, et dans cette bouche, s'ouvrant comme une gueule de poisson, le nez crochu semblait vouloir pénétrer. La mâchoire inférieure tremblait, on ne voyait pas ses yeux. Elle ne marchait pas, elle se traînait en s'aidant d'une béquille et portait à la main une sorte de paquet. Il me sembla que c'était la mort qui entrait. Je m'élançai vers elle en hurlant de toutes mes forces « File d'ici !» Grand-père se saisit de moi et, sans façon aucune, il m'emporta au grenier.